Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 22. Et le titre sera « De la destruction de Jérusalem jusqu'au règne de Constantin ». Jérusalem fut détruite vers les années 68 de notre Seigneur et avant que la génération contemporaine de Christ fût passée. La destruction de l'empire païen sous Constantin a eu lieu environ 260 ans après. En montrant comment l'Évangile a fait des progrès pendant ce temps-là, je remarquerai primo l'opposition que lui a fait l'Empire romain. Secondo, les progrès de l'Évangile malgré cette opposition. Et tierso, les diverses tribulations et épreuves par lesquelles l'Église a eu à passer avant d'être délivrée par Constantin. Donc, premièrement, tout d'abord, nous avons l'opposition qui a été faite contre l'Évangile et le royaume de Christ par l'Empire romain. Christ est venu au monde à une époque où la science et la philosophie florissaient dans l'Empire romain. L'Évangile, qui présentait un sauveur crucifié, n'était pas en accord avec les idées des philosophes. Les doctrines de se confier ainsi en un rédempteur crucifié, cela leur semblait une folie ridicule. La Grèce était la partie de l'Empire romain la plus renommée pour sa science. Mais l'apôtre remarque que la doctrine de Christ crucifié parut être une folie aux Grecs, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. C'est bien ça. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Veuillez, s'il vous plaît, noter les indications bibliques, car c'est important que vous puissiez vérifier que ce que je vous dis, c'est bien la sainte parole de Dieu et non pas une philosophie de mon propre cru. Donc, les sagesses et les philosophies s'opposèrent-ils à l'Évangile? Eh bien, nous avons un exemple de leur genre d'opposition dans la manière dont ils ont traité l'apôtre Paul à Athènes qui était et avait été pendant plusieurs siècles le siège principal des philosophes dans le monde entier de ce temps-là. Nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 18, que les philosophes d'entre les épicuriens et les stoïciens l'abordèrent en disant « Que veut dire ce fameux discoureur? Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Ainsi, ils se moquèrent de Christ et le tournèrent en ridicule. Il vivait en tout beaucoup trop près du temps où ces miracles avaient été accomplis pour pouvoir les nier, car nombreux sont ceux qui les avaient connus, car ils avaient été faits si publiquement et si récemment que ni les Juifs ni les païens de ces jours ne les pouvaient les nier, mais ils les attribuaient, hélas, au pouvoir de la magie. Et secondo, le gouvernement de l'Empire romain emploie toutes ses forces pour persécuter et, si possible, pour détruire le christianisme. Nous avons remarqué précédemment que Christ est venu dans le monde au moment où le pouvoir du paganisme était dans toute sa force sous l'Empire romain. Tout le pouvoir de cette monarchie fut pendant longtemps consacré à s'opposer à l'Église chrétienne et à la persécuter pour la détruire, s'il était possible, dans 10 tentatives successives qu'on appelle les dix persécutions païennes. La première, la persécution sous Néron, elle a eu lieu un peu avant la destruction de Jérusalem. L'apôtre Pierre a été crucifié et l'apôtre Paul a été décapité bientôt après avoir écrit la seconde épître à Timothée. Quand il écrivit cette lettre, l'apôtre Paul, il était prisonnier à Rome sous Néron. Et il dit au chapitre 4, versets 6 et 7, « Car pour moi, je vais maintenant être mis pour l'aspersion du sacrifice et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Il y a eu plusieurs milliers d'autres chrétiens qui ont été mis à mort dans cette terrible persécution. Les 9 autres persécutions ont eu tout lieu après la destruction de Jérusalem. Quelques-unes furent vraiment terribles et ont de loin dépassé de beaucoup les premières qui étaient sous Néron. Les empereurs, les uns après les autres, se sont efforcés, avec toute la rigueur possible, de détruire l'Église chrétienne et d'effacer jusqu'au nom de Jésus-Christ. Des milliers, des millions même, ont péri de mort cruelle, car on n'épargnait ni sexe, ni âge. Et dans les dernières persécutions, les empereurs romains, irrités de ce que leurs prédécesseurs n'avaient pas réussi à extirper le christianisme, ni à arrêter ses progrès, sont devenus encore beaucoup plus violents dans leurs attaques. Ainsi, une grande partie des 3 premiers siècles après Jésus-Christ se passa en cruelle et violente persécution que l'Église a eu à souffrir de la part de l'Empire romain. Satan n'était nullement disposé à renoncer au pouvoir qu'il avait sur une si grande partie du monde que pendant tant de siècles il avait paisiblement possédé, aussi quand il a vu que cela lui échappait si rapidement, il a fait tous ses efforts pour le conserver. Tout l'enfer s'est donc soulevé afin de résister au christianisme de tout son pouvoir. Satan, qui a eu ainsi à son aide le pouvoir de l'Empire romain. Deuxièmement, je ferai remarquer le succès que l'Évangile a eu dans le monde avant le règne de Constantin, malgré toute cette opposition, bien que la science et le pouvoir de l'Empire romain ont été si grands et que l'un et l'autre ont ligué tout contre le christianisme, eh bien tout leur était inutile. Ils n'ont pas pu ni le détruire, ni arrêter ses progrès. Et malgré tout cela, le royaume de Jésus-Christ s'est maintenu admirablement et l'empire païen au pouvoir de Satan se décomposa et se consuma devant lui conformément à cette parole qui dit dans Ésaïe chapitre 60 verset 8 dans Ésaïe chapitre 61 verset 8, excusez-moi. Et là il est dit, car la teigne les rongera comme un vêtement, et le ver les dévorera comme la laine. Et on pouvait très bien remarquer que dans la plupart des cas, plus ils persécutaient l'Église, plus elle augmentait, si bien qu'on se mit à dire le sang des martyrs est la semence de l'Église. À cet égard, l'Église ressembla au palmier. On dit que plus pesant est le poids de ses branches, plus il croît et se développe. Et cette probabilité, c'est probablement pour cela que l'Église est sous ce rapport totalement comparée à un palmier. La taille est semblable à un palmier, est-il dit, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Justin Martyr, un père de l'Église distingué, qui a vécu vers la fin du siècle apostolique, a dit que de son temps, il n'y avait aucune portion du genre humain, soit grec ou barbare, ou de quelques autres noms qu'ils fussent appelés, même chez les peuples les plus grossiers, où on n'avait pas offert des prières et des actions de grâce au grand Créateur du monde, au nom du Jésus crucifié. Tertullien, un autre père de l'Église bien connu, qui a vécu au commencement du siècle suivant, déclare que de son temps, la religion chrétienne s'était répandue jusqu'aux extrémités du monde connu, en y comprenant l'Angleterre. De là, il conclut qu'alors le royaume de Christ était plus étendu qu'aucune des quatre monarchies. Il dit de plus que bien que les chrétiens ont été comme des étrangers nés d'hier, ils avaient pourtant tout envahi dans l'Empire romain, tels que les villes, les îles, les forteresses, les corporations, les conseils, les armées, les tribus, le palais, le sénat, les cours de justice. Ils n'avaient laissé aux païens que leur temple. Il ajoute que s'ils s'accordaient tous pour quitter l'Empire romain, eh bien, le monde serait surpris de la solitude et de la désolation qui en serait le résultat, tant il resterait peu de monde et que les chrétiens étaient assez nombreux pour être en état de se défendre s'ils jugeaient bon de prendre les armes contre les magistrats païens. Et Pline, un autre païen, qui vivaient de ce temps-là déclarent que des multitudes de personnes des deux sexes, de tout âge et de toute condition, étaient devenues chrétiennes. Alléluia. Et il fut remarqué par les écrivains de ce temps-là, soit païens, soit chrétiens, que les fameux oracles des gentils, donc des non-juifs, que les princes et beaucoup d'autres personnes avaient eu l'habitude d'aller interroger pendant tellement de siècles pour recevoir des réponses des dieux à ce qu'on croyait, il fut rendu muet et ne rendirent plus de réponse. L'oracle, le fameux oracle de Delphes, en particulier, le plus fameux dans le monde entier, que les Grecs et les Romains avaient l'habitude de consulter, commença à ne plus répondre, même déjà à la naissance de Jésus-Christ. On demanda un jour à ce faux Dieu qu'on adorait dans ce temple et qui donnait ordinairement les réponses au moyen de l'oracle, pourquoi il ne répondait plus comme de coutume. Et, croyez-le ou pas, il répondit, ainsi que le rapportent plusieurs auteurs païens contemporains, « Il y a un enfant hébreu qui est le roi de tous les dieux, qui m'ordonne de quitter cette maison et de me retirer dans l'enfer. C'est pourquoi n'entendez plus de réponse. » Et plusieurs contemporains parlent beaucoup du silence des oracles, qui les surprend, ne sachant pas quelle en est la raison. Plutarque, un autre nom, donc Plutarque, a écrit à ce sujet un traité particulier que nous possédons encore. Et Porphyre, je dis bien le nom de Porphyre, avec un Y, grand adversaire de la religion chrétienne, lui s'exprime ainsi. Il n'y a rien d'étonnant que la ville ait pendant tellement d'années été envahie, puisque Esculape et les autres dieux ont cessé tous tout rapport avec les hommes, car depuis que Jésus a commencé d'être adoré, personne n'a reçu aucun secours ni aucun service des dieux. Et voilà comment le royaume de Jésus-Christ prévalut contre celui de Satan. Troisièmement, les chrétiens, abusant de leur liberté, ont commencé à se refroidir et à perdre la vie chrétienne. Les querelles ont prévalu au milieu d'eux. Par tout cela, ils ont provoqué Dieu qui a laissé venir sur eux cette terrible épreuve. Et Satan, qui avait perdu tellement de terrain malgré tous ses efforts, semble animé d'une rage extraordinaire. Les gens en autorité ont entrepris de détruire violemment tout le christianisme en brûlant toutes les Bibles et en faisant périr tous les chrétiens. Et c'est pourquoi ils ne se donnèrent pas la peine de les juger ou de les condamner juridiquement, mais ils sont tombés sur eux partout où ils les trouvaient. Quelquefois, on a même mis le feu à des maisons dans lesquelles des multitudes de chrétiens étaient réunis pour prier, et on les brûla tous ensemble. Dans d'autres circonstances, ils ont massacré de si grandes multitudes que les persécuteurs furent fatigués de les tuer et de les tourmenter. Et dans quelques villes populeuses, il y a eu tant de personnes mises à mort que le sang a coulé à torrents. On rapporte que 17 000 martyrs ont été mis à mort dans un seul mois et que pendant la durée de cette persécution, dans la seule province d'Égypte, il ne périt pas moins de 154 000 chrétiens de mort violente. De plus, 700 000 ont péri de fatigue dans l'exil ou par suite des travaux publics auxquels ils avaient été condamnés, c'est-à-dire des travaux forcés. Cette persécution a duré 10 ans et de même qu'elle dépassait toutes les précédentes par le nombre des martyrs, eh bien elle se distingue aussi par la variété et par la multitude des moyens de torture et de cruauté. Quelques auteurs contemporains déclarent qu'ils étaient innombrables et qu'on ne pouvait pas s'en faire une juste idée. À la fin des 10 années de persécution, les persécuteurs païens ont pensé qu'ils avaient atteint leur but et ils se sont vantés d'avoir complètement détruit le nom et la superstition des chrétiens et d'avoir rétabli et propagé le culte des faux dieux. C'est donc ainsi que l'époque la plus ténébreuse de l'Église chrétienne est venue justement avant le lever du jour. Ils furent réduits à la dernière extrémité avant que Dieu apparût pour les délivrer d'une manière glorieuse. Il en fut de même des Israélites en Égypte, car leur servitude fut surtout sévère et cruelle peu de temps avant qu'ils ont été délivrés par Moïse. Leurs ennemis ont cru de les avoir engloutis et avoir achevé leur destruction. Ce fut aussi ce que Pharaon et son armée ont cru après avoir acculé les enfants d'Israël à la mer Rouge. Et quatrièmement, j'en viens maintenant à la grande révolution opérée par Constantin. Ce fut à plusieurs égards comme l'apparition de Jésus-Christ sur les nuées du ciel pour sauver son peuple et pour juger le monde. Le peuple de Rome, fatigué du gouvernement de ces tyrans auxquels il avait été soumis dernièrement, envoya vers Constantin, qui était alors dans la ville de York, en Angleterre, pour le prier de venir s'emparer du trône. Il fut encouragé à ce que on dit par la vision en présence de toute son armée, d'une colonne de feu dans les cieux sous la forme d'une croix avec cette inscription « Remporte la victoire par ce signe de la croix ». Et la nuit suivante, Jésus-Christ lui apparut dans un songe, tenant la même croix à la main, et il lui dit de faire une croix semblable pour lui servir d'étendard, afin que son armée puisse combattre sous ce drapeau, et il lui assura qu'il remporterait toute la victoire. Et en effet, ils ont vaincu tous les ennemis, ils ont pu prendre possession du trône impérial, embrassa la religion chrétienne, et Constantin fut le premier empereur chrétien. Je remarquerai plusieurs choses qui accompagnèrent ou qui suivirent de très près son avènement au trône. Par ce moyen, l'Église chrétienne fut complètement délivrée de la persécution. Le jour de sa délivrance arriva après une nuit d'affliction. Les cris et les pleurs avaient duré pendant la nuit, mais la délivrance et les chants de triomphe sont venus avec le matin. Alors Dieu, il apparut pour juger son peuple, et il se repentit lui-même pour ses serviteurs quand il a vu qu'ils avaient perdu tout pouvoir et qu'il n'y en avait aucun en réserve. Les chrétiens n'ont eu plus de persécution à craindre dès ce moment-là. Les persécuteurs furent donc tous renversés et leurs gouverneurs furent maintenant des chrétiens comme eux. Alors Dieu apparut alors. Il apparut pour exercer de terribles jugements contre leurs ennemis. Les récits que l'histoire donne de la fin terrible des empereurs païens, des princes, des généraux, des capitaines et d'autres hommes très distingués qui avaient persécuté l'Église chrétienne sont très remarquables, car ils ont péri misérablement les uns après les autres au milieu de grandes douleurs physiques, et ils ont été tourmentés par leurs ennemis. La main de Dieu était visiblement sur eux, de sorte qu'on pourrait bien dire qu'ils ont eu à se cacher dans les trous et dans les cavernes des rochers et des montagnes. Le paganisme fut alors presque entièrement aboli dans tout l'Empire romain. Les idoles furent détruites et les temples païens furent renversés. Des idoles d'or et d'argent furent fondues et on en a fait de la monnaie. Quelques-unes de leurs idoles principales, artistiquement travaillées, furent transportées à Constantinople et on les traîna par les rues avec des cordes pour l'amusement du peuple. Les prêtres païens furent donc dispersés et bannis. L'Église chrétienne a donc vu des jours de paix profonde et de grande prospérité. Tous les magistrats païens furent destitués et dans tout l'Empire romain, on accorda des places et des fonctions que aux chrétiens. On a eu alors des présidents, des gouverneurs, des juges et des officiers chrétiens à la place des païens. Constantin avait entrepris d'élever aux honneurs les évêques et les serviteurs chrétiens et de construire et d'orner des églises. On construisit dans toutes les parties du monde de grandes et très belles églises chrétiennes à la place des anciens temples païens. Et ce fut là la plus grande révolution depuis le déluge. Satan, le prince des ténèbres, le roi et le dieu du monde païen, fut enfin renversé. Le lion rugissant fut forcé par l'agneau de Dieu dans le plus fort de sa forteresse. Ce fut là un accomplissement remarquable de Jérémie chapitre 10, verset 11, que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de la terre et de dessous les yeux. De dessous les cieux, vous avez compris, ça veut dire de dessous le ciel. Et la plupart des nations du monde connues ont rejeté toutes leurs anciennes idoles. Gloire à Dieu. Ils oublièrent toute cette multitude de dieux qu'ils avaient adorés précédemment. Des milliers d'entre eux furent rejetés pour le culte du vrai Dieu et de Christ, l'unique Sauveur. Et ces paroles d'Ésaïe, chapitre 2, versets 17 et 18, se sont accomplies d'une manière remarquable, où il est dit « Et l'élévation des hommes sera humiliée, et les hommes qui s'élèvent seront abaissés, et l'Éternel sera seul, haut élevé en ce jour-là. Et quant aux idoles, elles tomberont toutes. » Depuis lors, on ne parla plus de ces dieux, et qui étaient, paraît-il, si fameux, tels que Jupiter et Saturne, Minerve et Junon, que comme de vieilles choses passées ont été abandonnées. Depuis des siècles, ils n'ont plus de temple, ni d'autel, ni d'adorateur. Ainsi a donc fini l'ancien monde païen dans une de ses principales parties, l'Empire romain. Et cette grande révolution et la terrible destruction des grands hommes qui avaient persécuté l'Église est comparée à la fin du monde et à la venue de Jésus-Christ pour le jugement, selon Apocalypse chapitre 6. Ce qui a eu lieu alors est aussi représenté par l'image du diable qui est précipité des cieux sur la terre. Et on peut dire au fait de sa force et de sa gloire, dans l'Empire romain, l'ennemi avait élevé son trône jusqu'aux cieux. Mais alors, il tomba du ciel comme un éclair, est-il dit, et son royaume n'embrasse plus que les nations les plus barbares ou les parties les plus basses du monde. Et c'est là l'événement prédit. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde, fut précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Précédemment, Satan avait tenté Jésus-Christ et avait promis de lui donner la gloire des royaumes de ce monde. Mais maintenant, il est obligé lui-même de la lui céder contre sa propre volonté. Ce fut là un bel accomplissement de la promesse que Dieu a faite à son Fils. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands et il partagera le butin avec les puissants, parce que il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été mis au rang des transgresseurs et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs et aura intercédé pour les transgresseurs. Ésaïe, je crois, chapitre 53, verset 12. Ce fut donc là un grand accomplissement des prophéties concernant le temps glorieux de l'Évangile et particulièrement de celle de David. L'Éternel établit alors son royaume sur les ruines de celui de Satan. Tel est donc le succès de la rédemption chrétienne, et voilà les honneurs que Dieu a conférés à son Fils comme compensation du mépris auquel il a été soumis pendant qu'il était sur la terre. De ce qui a été dit du succès de l'Évangile depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'au règne de Constantin, nous pouvons tirer un fort argument en faveur de la vérité de la religion chrétienne et nous pouvons conclure que l'Évangile de Jésus-Christ est bien réellement de Dieu. Nous pouvons donc conclure de ce qui a été dit que l'Évangile et lui seul a été le moyen d'amener le monde à la connaissance du vrai Dieu, que les idoles adorées par les païens ne furent pas Dieu, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, c'est donc là une chose dont nous pouvons voir la vérité par notre raison depuis que l'Évangile nous l'a enseigné. Cela est parfaitement conforme à la lumière naturelle et on peut aisément démontrer que c'est une vérité raisonnable. Des déistes eux-mêmes reconnaissent qu'on peut démontrer qu'il y a un Dieu et un seulement qui a fait le monde et qui le gouverne. Or, il est évident que c'est l'Évangile à lui seul qui a été le moyen d'amener les hommes à la connaissance de cette vérité-là. Nous ne devons pas aux instructions des philosophes. Leurs efforts ont été absolument inutiles. Le monde n'a pas appris à connaître Dieu par la philosophie. Jusqu'à ce que l'Évangile et les saintes Écritures ont été répandues, eh bien le monde entier a été dans l'ignorance du véritable Dieu et dans les plus grandes ténèbres à l'égard des choses religieuses, et on a accueilli, hélas, les opinions et les coutumes les plus absurdes que toutes les nations civilisées proclament aujourd'hui n'être que des folies. La lumière de la nature, la raison et toute la sagesse des savants ne ont servi à rien jusqu'à l'apparition des saintes Écritures. Mais celles-ci réussirent à amener le monde entier à connaître le seul vrai Dieu, Yahvé l'Éternel, à l'adorer et à le servir. Toutes les parties du monde qui aujourd'hui reconnaissent un seul et vrai Dieu, les chrétiens, les juifs et même les déistes, sont primitivement redevables de cette connaissance à l'Écriture sainte. Et c'est donc à cela qu'ils doivent de n'être plus plongés dans les ténèbres du paganisme. Toute la lumière qu'ils ont, ils l'ont reçue ou immédiatement des Saintes Écritures ou par tradition de leur père qui l'avait d'abord puisé dans la Sainte Bible. Et quant à ceux qui aujourd'hui méprisent les Saintes Écritures et qui se vantent de leur propre raison comme étant suffisante pour conduire à la connaissance du vrai Dieu, il est hors de doute que si l'Évangile n'avait pas été propagé dans le monde pour éclairer leurs ancêtres, ils seraient des idolâtres aussi grossiers que ceux que le monde a vus avant l'Évangile. Il est donc évident que les Saintes Écritures ont été le moyen voulu de Dieu pour amener le monde à le connaître plutôt que la raison ou rien d'autre, car on ne peut croire raisonnablement que l'Évangile, à moins que Dieu ne l'eût désigné comme étant le moyen convenable pour obtenir ses résultats, cela a été obtenu, ce que la raison humaine avait vraiment recherché pendant, on peut bien dire, plusieurs siècles. Donc si les Saintes Écritures ne sont pas la sainte parole de Dieu, elles ne sont rien que tromperie et ténèbres, la plus grande même des tromperies. Et est-il raisonnable, chers amis, de supposer que Dieu, dans sa providence, a voulu avoir recours à la fraude et à la tromperie pour se faire connaître au monde et que personne n'a pu parvenir à le connaître d'aucune autre manière. Le succès de l'Évangile, malgré une si puissante opposition, montre très clairement que c'est la main de Dieu. Le gouvernement romain qui avait entrepris d'arrêter par des procédés violents les progrès de l'Évangile et de soumettre l'Église chrétienne était le plus puissant qui eût jamais existé et qui plus est, il semblait qu'ils avaient l'Église en leur pouvoir. Les chrétiens qui étaient sous la domination romaine n'ont pas pu jamais prendre les armes pour se défendre eux-mêmes. Et cela pour unique défense, ils se sont armés uniquement de patience et d'autres armes spirituelles de ce genre. Et malgré tout cela, ce pouvoir puissant n'a pas pu triompher du christianisme. Il fut bien au contraire vaincu par le christianisme. L'Empire romain avait donc subjugué plusieurs grands et puissants royaumes. Il avait subjugué la monarchie grecque, bien qu'elle eût fait une grande résistance, et pourtant, ils n'ont pas subjugué l'Église qui était en son pouvoir, mais elle, bien au contraire, elle s'est soumise et elle a triomphé par Jésus-Christ. La protection de Dieu, elle peut seule expliquer suffisamment cette propagation de l'Évangile. Et ce fut donc là un résultat grand et admirable. Et il ne peut pas avoir été sans cause. Quelle autre cause peut-on imaginer si ce n'est la puissance divine ? l'Évangile ne doit pas son progrès à la force extérieure de ceux qui en furent les instruments. Il ne fut d'abord prêché que par quelques pécheurs dépourvus de tout pouvoir terrestre pour le soutenir. Leur habileté et leur politique ne peuvent pas avoir obtenu ces admirables résultats, car ils étaient des hommes simples et souvent illettrés. Leur succès ne peut donc pas non plus être attribué à la conformité de leur récit avec les notions et les principes de l'humanité. Ce n'était pas une fable amusante qu'ils annonçaient. Un Dieu et un Sauveur crucifié étaient le scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Leur doctrine était tout aussi peu faite pour plaire aux inclinations des hommes, car il n'y a rien de plus opposé que les doctrines de l'Évangile aux corruptions de la nature humaine. Cet effet ne peut donc pas avoir eu d'autre cause que le pouvoir et l'intervention de Dieu. Et si la puissance de Dieu a été ainsi mise au service de l'Évangile, il doit vraiment être la sainte parole de Dieu, car il est sûr que Dieu n'emploie pas sa propre puissance à soutenir une imposture et une tromperie. Ce succès est donc d'accord avec ce que Christ et ses apôtres ont prédit. Ils ont dit, selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Sur cette pierre, j'édifierai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » J'ai dit saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Maintenant, oui, maintenant, est venu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. Saint Jean, chapitre 12, versets 31 et 32. Et quand il, le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Saint Jean, chapitre 16, verset 8. Pour terminer notre étude aujourd'hui, l'apôtre saint Paul déclare aussi que puisque le monde n'a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser. Oui, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont. Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 28. Si un homme prédit qu'une chose très probable en elle-même arrivera, pour des raisons faciles à prévoir, ce ne saurait être une grande preuve de révélation divine. Mais quand on prédit un événement tout à fait contraire au cours ordinaire des choses, et que pourtant il s'accomplit tout à fait conformément à la prédiction, ça, c'est là une grande preuve que la prédiction est vraiment de Yahvé l'Éternel. Ainsi, quand on considère comment l'Évangile s'est propagé et a réussi pendant le temps dont il a été question, on trouve dans ce fait une grande preuve que les Saintes Écritures sont vraiment la Sainte Parole de Dieu. Chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que j'ai reçu dans le cœur pour votre édification personnelle et aussi, pas seulement, mais aussi pour vous aider dans la vie de tous les jours. Écoutez bien. Seigneur, nous t'aimons et nous te louons. Tu es notre joie et notre récompense la plus haute. Souvenez-vous que l'amour est la puissance qui transforme le monde. Pas d'amour qu'on porte seulement au Seigneur, ou l'amour qu'on témoigne à quelques êtres bien-aimés, mais l'amour qui va à tous, à tous les hommes, aux publicains, aux pécheurs et aux prostituées, c'est cela, l'amour agapé. C'est la seule arme par laquelle le péché puisse être expulsé. Appliquez-vous à expulser le péché par l'amour. Et puis, par la louange, oui, la louange. Débarrassez-vous de la dépression, du découragement et de tout sentiment d'impuissance ou de défaite. La louange est le meilleur moyen de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Ce n'est pas souvent qu'on renouvelle un don ou un paiement lorsque on n'a reçu aucun accusé de réception, ni aucun remerciement. La louange de celui qui chante sa reconnaissance pour les bienfaits que le Seigneur offre tient ouverte la voie par laquelle il pourrait les lui renouveler. Apprenez donc, comme les enfants, à dire merci. Faites-le d'abord, s'il le faut, par politesse, sans peut-être éprouver toujours un sentiment de profonde gratitude. Faites-le jusqu'à ce qu'un tressaillement de joie, de saint respect et de reconnaissance accompagne vos paroles. Ne vous attendez pas à éprouver forcément ce que éprouvent les autres. Persévérez dans la voie d'abord aride de l'obéissance, tout simplement. Votre persévérance sera récompensée le jour où vous parviendrez à la source de la vie qui chante. Ah oui, réjouissez-vous en Jésus-Christ et dans toute la mesure du possible, répandez la joie autour de vous. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Prions. Éternel, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance. Aucune chose ne t'est difficile. C'est toi qui fais miséricorde en 1000 générations. Tu es le Dieu fort, le grand, le puissant, grand en conseil, en puissance, en exploit, car tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon sa conduite. Oui, Éternel, convertis-nous et nous serons convertis. Certainement, a dit l'Éternel, j'aurai pitié de vous. Mes entrailles sont émues et je vous ai aimé d'un amour éternel. Je suis avec vous pour vous délivrer. Cependant, je ne vous tiendrai point pour innocent, mais je vous ferai revenir par ma miséricorde. Je vous conduirai par un droit chemin auquel vous ne broncherez point. Je vous garderai comme un berger garde son troupeau. Je vous donnerai un cœur pour connaître que je suis l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu et vous reviendrez à moi de tout votre cœur. Il y a de l'espérance pour vos derniers jours, a dit l'Éternel. Les pensées que j'ai de vous sont des pensées de paix. Alors, vous me prierez, vous m'invoquerez, et je vous exaucerai. Oui, je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez, car je me ferai trouver à vous. Célébrons donc l'Éternel, car l'Éternel est bon, et sa miséricorde demeure à toujours. Amen. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, 1962. Évidemment, c'était des enregistrements que j'avais faits avec un appareil avec des bandes. Et vous pouvez bien comprendre que la qualité s'est en allée une bonne partie. Et j'espère tout de même que par l'Esprit divin, vous recevez quelque chose dans votre âme et dans votre cœur. Donc, maintenant.
Everybody, to a gathering of God's people. We've come to celebrate, to worship, and to minister in Jesus' name. I'm just praying that God will give us all a better understanding of who Jesus really is and of everything he's done for us. Anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything there is. Nothing exists that he didn't make. But although he made the world didn't recognize him when he came. Only a few would welcome and receive him. But to all who received him, he gave the right to become children.
Before the worlds were created, there was Christ with God. He has forever existed, and himself is God. He made all things, great creator, by his perfect design. He is the light ever shining that enlightens mankind. Plan. He was despised, man of sorrows, and rejected by men. But everyone who received him was born again. His name is Jesus, Jesus. His name is Jesus, the mighty God. His name is Jesus, Jesus. His name is Jesus, the living Word.
The sick, great physician, made the blind men see.
He raised the dead, what a wonder, set the prisoners free.
He gave his life, Lamb of Calvary, to atone for our sin.
But
ascended, holy, holy, to the throne of God.
Poured out his spirit, glory, glory, as he promised he would.
He's coming back, Maranatha, yes, he's coming again.
He's coming back, King of Kings, Lord of Lords, amen.
Same Jesus said, "Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Jesus is here now, just as he promised. Why is he here? Just to watch us and to mock us in our need? No, he's here because he loves us and he delights to bless his people. So whatever your need is, you reach out right now and expect him to do something for you. One thing Jesus wants to do for us all is to break down these barriers between us, like the generation gap or social differences. He loves us all, and he wants to fill us with love for one another.
Turn the hearts of the children to the parents. Turn the hearts of the parents to their young. Turn the hearts of us all to one another. Turn the hearts of the people to the Lord.